de cette journée, une parole qui est exhalée, écoutée et prêchée, il y a cette dimension d'espérance qui est essentielle. Et vous savez, comme moi, que nous, personnellement, en avons besoin, mais que le monde autour de nous a soif de cette lumière. Je voudrais juste citer un extrait de Rabbi Kouti, du pape François, autour de l'espérance. L'espérance nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. L'espérance nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon, pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance. C'est le numéro 55. Je laisse maintenant la parole au père Luc Forestier. Une chose que j'aimerais encore mentionner, il est co-auteur de cet ouvrage « Petit manuel de synodalité » qui permet d'entrer peut-être à travers différents chapitres. C'est pas nécessairement à lire de A à Z, comme tous les livres pour prendre la table des matières. Mais ça veut dire, voilà, il y aura un focus sur l'un ou l'autre aspect de la synodalité. Donc en ce sens-là, c'est vraiment un ouvrage qui vaut la peine de consulter, lire de A à Z ou de d'autres chapitres. Et bien sûr, ça c'est le petit coup de pub, vous pouvez le commander à la doc. Mireille est là si vous voulez déjà inscrire vos noms sur une feuille pour passer comment. Voilà. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci.
Oui, merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Alors, là, donc, vous avez sous les yeux toujours le petit livret, hein. J'attire votre attention sur, donc, la séquence dans laquelle nous sommes jusqu'à midi. Donc, le travail avec un échange en groupe dont on va parler dans une seconde. Vous avez aussi un peu plus loin après le psaume que nous venons de travailler. Vous avez un extrait de Dei Verbum numéro 25. Je vais présenter ça dans une petite seconde. Et puis, quand on tourne la page, à la page 8, vous avez là des questions pour la lecture en groupe, puisque nous allons travailler ce texte de Dei Verbum en groupe, et puis voilà, rédiger au terme de l'échange en groupe, la mise en commun, et puis la suite de la réflexion. Alors, juste un petit mot d'introduction. Donc, oui, au fond, dans cette journée sur la parole pour espérer, écouter et prêcher, ce que je vous propose de faire est très limité, évidemment, ici, c'est de nous faire réfléchir sur la question de l'autorité de l'Écriture et la responsabilité du prédicateur et de la prédicatrice. Donc ici, on a bien voulu marquer prédicateur et prédicatrice pour ne pas laisser croire que la prédication est limitée à la liturgie eucharistique dominicale, bien sûr. Tout le monde l'aura compris, j'y reviendrai dans une petite seconde. Et donc le premier exercice, c'est un travail sur un texte que vous connaissez déjà, donc c'est assez facile, vous l'avez déjà lu, j'en suis presque sûr, qui est dans Dei Verbum. Alors de quoi parlons-nous? Dei Verbum, tout le monde se souvient des constitutions du Concile Vatican II, il y en a quatre. Donc les quatre constitutions, on les connaît, la première c'est... Lumen Gentium, on commence souvent par celle-là. C'est curieux d'ailleurs parce que ce n'est pas la plus ancienne. La première c'est Sacro Sanctum Concilium. Très bien, bravo. Ensuite, Lumen Gentium, on l'a dit, puis Dei Verbum, et ça la dernière, et Gaudium et Spes, c'est la dernière aussi. Donc, voilà. Donc Dei Verbum sur la révélation divine. Alors, Dei Verbum, elle est organisée en six chapitres, ici que vous avez sous les yeux, je vous ai remis, c'est des choses que vous connaissez. Hein. Et nous, on va lire un numéro du dernier chapitre. Donc, non pas sur la révélation, parce que souvent, on commence Dei Verbum en commençant par le début, ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'un texte, on le lit par le début. Mais là, en fait, c'est aussi intéressant de prendre par la fin. C'est ce qu'on va faire sur aujourd'hui. Donc, la révélation en elle-même, la transmission de la révélation, qui est une transmission transmission, c'est le même mot que tradition, hein, vous savez, l'inspiration divine, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et nous on va lire un numéro du chapitre 6, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Donc c'est bien sûr, la focale elle est sur donc un tout petit aspect de la constitution, d'une des constitutions de Vatican II. Donc vous voyez le point de focale que nous faisons. Alors ce chapitre 6, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église, il a plusieurs numéros. D'abord, respect de l'Église pour les saintes Écritures. C'est comment l'Écriture est positionnée dans la vie ecclésiale. Les versions faites avec soin sont recommandées. C'est très intéressant, j'en dirai un mot tout à l'heure sur l'idée qu'il y a plusieurs versions, en effet. Là, par exemple, tout à l'heure, je pense que c'était c'était marqué, hein, c'était très bien de l'avoir marqué, texte biblique, psaume 24, traduction AELF, parce que c'est une des traductions possibles du psaume 24. Donc des versions, le devoir apostolique des docteurs catholiques, très bien, l'importance de la Sainte Écriture en théologie, c'est là où, vous savez, l'étude de la Sainte Écriture est comme l'âme de la théologie, c'est là que ça apparaît, très bien, et donc voilà, la numéro 25, la lecture de la Sainte Écriture est recommandée. Alors, ça c'est tout à fait, après il y a un épilogue, je passe. Donc ici, c'est ce numéro-là que nous allons lire, vous l'avez donc sous les yeux. Et pour ce faire, ce que je propose, donc c'est que l'un de nous, l'une de nous va le lire, on va le à haute voix, pour que tout le monde l'ait sous les yeux. Je vous invite déjà à avoir le stylo à la main, et au fur et à mesure qu'il y aura la lecture, on pourra ainsi noter des choses, etc., etc. Et ensuite, les questions qu'on va se poser, c'est... Donc les mots qui nous surprennent. Donc ça c'est un travail, j'allais dire, vraiment sur le texte même. Là c'est un peu scolaire, excusez-moi de le faire ainsi, mais je pense que c'est intéressant, vous allez voir que ça peut donner à réfléchir sur ce qu'est cette parole qui nous permet d'espérer. Qui est concerné? Parce qu'on dit que l'écriture est recommandée. Elle est recommandée pour qui? Bon, qui est concerné? Comment? Et puis comment faire? Voilà. Comment faire? C'est bien qu'on nous dise que l'écriture est recommandée, mais qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail, donc là, ce travail, on aura à peu près 15 minutes de partage par table, puis ensuite, on pourra en 5 minutes répondre à... rédiger une conviction par table qui commence ainsi, nous sommes d'accord pour affirmer que... Puis ensuite, rédiger une question qui commence ainsi, nous nous demandons si. Et après ça, hop, on pourra la traverser, on pourra partager ça. Ça, Adrien viendra m'aider pour cette partie-là, un peu plus technique, grâce à un système. Chacun a repéré que sur les tables, vous avez ceci. Vous l'avez vu, ça? Donc il y en a un parmi nous qui va l'utiliser avec son téléphone portable. Donc déjà, je vous l'ai dit qu'on précisera tout à l'heure sur la modalité. Ça va? Donc, premier temps, nous lisons des Irabum 25, puis nous avons un quart d'heure pour en parler par table. Ça va? Je propose que maintenant, l'une de nous lise des Irabum.
C'est pourquoi, pour les clercs, en premier lieu les prêtres du Christ, et tous ceux qui s'adonnent légitimement comme diacres ou catéchistes au ministère de la parole doivent, par une lecture sacrée, assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors, lui qui ne l'écouterait pas au-dedans de lui. Alors, il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours de la Sainte Liturgie, des richesses sans mesure de la parole divine. De même, le Saint-Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ, et notamment les membres des ordres religieux, à acquérir, par la lecture fréquente des divines Écritures, la science éminente de Jésus-Christ. En effet, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Le volontiers donc, ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie imprégnée des paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours appropriés et par d'autres moyens qui, avec l'approbation et par les soins des pasteurs de l'Église, se répandent partout de nos jours d'une manière digne des dons. Qu'ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour qu'il s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme, car nous lui parlons quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Il revient aux évêques dépositaires de la doctrine apostolique d'apprendre de manière convenable aux fidèles qui leur sont confiés à faire un usage correct des livres divins, surtout du Nouveau Testament et en tout premier lieu des évangiles, grâce à des traductions des textes sacrés. Celles-ci seront munies des explications nécessaires et vraiment suffisantes afin que les fils de l'Église fréquentent les Écritures sacrées avec sécurité et profit et s'imprègnent de leur esprit. De plus, que l'on fasse à l'usage des non-chrétiens eux-mêmes des éditions de l'Écriture sainte annotées comme il faut et adaptées à la situation des destinataires que de toute manière, pasteurs d'art et chrétiens, quel que soit leur état, veille à les diffuser judicieusement.
Merci beaucoup. Donc nous partons pour un quart d'heure de discussion par table. Donc à partir des trois petites questions que je propose ici, quels sont les mots qui sont sur qui me surprennent, qui est concerné, comment faire? Il est 10h52, donc nous allons jusqu'à 11h07. C'est bon? Bon travail.
Thank you. Thank you. Thank you. Alors, je propose que maintenant, on prenne quelques minutes pour rédiger une conviction et une question. Quelques minutes pour rédiger une conviction et une question.
On peut prendre le temps.
Si je l'ai. Voilà, je fais ça.
Nous allons prier et désigner un membre du groupe à prendre son téléphone, à ouvrir l'appareil photo et s'approcher de ce QR code qui nous permettra alors de se connecter à cette application. Une fois connecté, je vous prie de commencer à rédiger la conviction en écrivant avant groupe 1, groupe 2, le point et ensuite la conviction. Et puis, une fois que vous allez le faire, on aura chaque baptisé doit se laisser. Groupe 6 qui a répondu déjà. Merci beaucoup. On peut entrer le nom, par exemple, on va dans l'équipement, oui, le groupe 6.
Ça fonctionne. Bah, du coup, je vais enlever
On peut enlever ça.
Voilà, c'est ça.
Et on réussit à le faire avec ce qu'on a sur la table et puis on laisse, on attend.
Allez, pas d'autre. Si j'ai rempli, donc nous sommes d'accord que pour mettre la question.
Ah, la question, elle va arriver dans 2 secondes. Il faut que tout le monde. C'est. Oui, je trouve. Pour l'instant, il n'y en a qu'un pour l'instant. C'est peut-être un
autre. Je parle de comment le browser français.
Browser.
Quand on met www.
Ah oui, il y avait un nom. L'adresse avec vous.
Navigateur.
Le navigateur, oui.
Si l'appareil photo ne vous permet pas de vous connecter, vous pouvez ouvrir le navigateur, là où vous écrivez www, vous montez le site, et vous introduisez directement ce texte-là.
Absolument, je fais une bêtise. C'est vrai que je fais une bêtise. Top, annulé. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, voilà, ça on est content.
On aura la possibilité de répondre à la deuxième une fois que tout le monde est déjà répondu à la première. Donc on attend tous les groupes à donner, à rédiger une conviction. Merci.
C'est pas mal, j'ai jamais vu ça, ce
c'est
système.
Vrai. Ah, ce système, ouais. C'est pas mal. Mais voilà,
et le truc est intéressant, le gros, le change était intéressant.
Alors moi, je me suis partie à un moment donné, mais je pense que oui. Donc là, on a quoi,
il y a combien de groupes en tout?
12. 17, il manque 5.
C'est là ? Oui, vas-y, fais-le avec le truc.
17, on a
12,
5, 6 mois.
Oui.
On a encore 5 groupes.
Ah bon, le groupe 1 va être curieux alors.
Je propose qu'on liste déjà ceux qui ont pu être mis là et ceux qui n'auraient pas pu passer par AFEC, qu'on dise oralement comme ça. Donc, une conviction, nous sommes d'accord pour affirmer que chaque baptisé doit se laisser interpeller par la parole de Dieu. Nous connaissons le Christ par la parole de Dieu. Merci de revenir en prénom. Les Écritures nous permettent de mieux connaître le Christ. La parole est une richesse sans mesure pour chacune et chacun. Nous devons d'abord nous laisser toucher et travailler par la parole avant de pouvoir la partager dans l'aujourd'hui de nos vies.
Là, nous sommes ici.
Chaque baptisé est prédicateur, prédicatrice, là où il est en parole et en acte, là où il est en parole et en acte. Pour cela, il a besoin de se nourrir de la Sainte-Esprit. Nous sommes d'accord pour affirmer que nous sommes tous concernés par la diffusion de la parole et l'approfondir. Nous sommes d'accord pour affirmer que s'approprier la parole est nécessaire pour la partager à tous. La fréquentation de la parole de Dieu concerne tous les fidèles pour être habités par elle afin de la transmettre. Que la parole invite à la rencontre, relation avec Jésus-Christ. Et est-ce qu'un groupe aurait encore à
oui, il y en a que le Christ, oui.
Que le Christ est parole et qu'il nous apprend à vivre, à la communiquer et à la partager. Que les Écritures s'adressent à tous et sont écrites et enrichies lorsqu'elles sont partagées. Que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture. Tout le monde a pu s'exprimer, n'est-ce pas? Il me semble qu'on est arrivé au total de 12. La question, nous nous demandons si, même processus, pas chrono, c'est parti.
Thank you. Kayana, c'est un peu plus long que... En fait, c'est quand même assez long comme opération, parce qu'on tape...
Ouais. C'est des gens qui connectent avec le téléphone.
Et oui, ils sont un peu... c'est beaucoup plus de temps que si on a l'ordi. Oui, oui, c'est bien.
La table de Céline, je crois qu'il y en a deux ou trois qui ont déjà utilisé ce...
Ah oui, ils connaissent. Les plus jeunes savent taper comme ça.
Oui, oui.
Les plus âgés, c'est plus difficile.
En plus, ils sont en train de réfléchir encore à...
Oui, bah oui, j'ai utilisé. Bon, du coup, ça décale un peu, mais c'est pas grave. On s'arrêtera de toute façon à midi, et puis s'il n'y a pas le temps personnel... Portons ceci dans tout le temps. Oui, oui, oui. Non, non, il faut les faire l'exercice. Parce qu'il faut que tout le monde. Oui, oui. Une fois que l'exercice est lancé, il faut le terminer. Sinon, c'est. Si les mises en garde exprimées. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est super intéressant. Qui a envoyé ça? On ne sait pas quel groupe. Zut, c'est anonyme. Dommage, parce que c'est super intéressant.
Le dernier. La dernière réponse appartient au groupe 1.
Ah, c'est
on va retenir. N'oubliez pas de mentionner le nom dans votre réponse.
Très bonne question. Nos célébrations de pastorales donnent de la place pour l'échange et le dialogue entre la parole. Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Groupe 9, très intéressant. Tout à l'heure, non, ils arrivent. Tu as laissé Barbara de les lire. Je considère que c'est Barbara qui les lit. C'est le groupe 1, c'est le groupe 1. On a...
Ah non,
il est marqué.
Merde, ça fait une semaine.
Ah peut-être, parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois.
Ah, c'est ça.
Une fois qu'on l'a fait une fois.
Tout le monde en
est. Non, pour l'instant, on en est à donc 3, 3, 6, 1, 7. Il en manque 5.
Les 5 groupes manquants d'arriver au niveau technique. Donc, tout le monde a pu écrire une question. Pas le temps de réfléchir, il faut être rapide.
Ceci étant suffisamment le dialogue autour de la
parole.
Ça dépendra si j'arrive à tenir, parce que là tu vois j'ai déjà.
Si jamais je crois que
ça déborde, ça
fera pas le temps, on arrive à midi.
De toute façon, midi on s'arrête. Oui, je disais à Adriane, si jamais j'ai pas le temps de faire ça, est-ce que tu vois le temps que ça.
Mais ça, on va réduire. Hein.
Oui, on peut, mais même
ça,
on peut.
Non, ça, on réduit pas. Ça, on réduit.
Voilà.
De toute façon, on veut réduire à 7 minutes. Hein.
Oui, de toute façon, puis même. Et...
Je propose qu'on lise déjà ce qui a été répondu, et puis il y en a qui veulent encore s'exprimer, ou sinon, nous demandons si nous sommes témoins de la parole vivante à chaque instant, si nous arrivons à donner le goût de la lecture et de l'étude de la parole, si nous portons le souci de tout homme pour que la parole rejoigne tous en chacun, si les mises en garde exprimées par le texte sont encore légitimes aujourd'hui, si nos célébrations et autres activités pastorales donnent la place pour l'échange et le dialogue autour de la parole.
Hop,
voilà. Ah, ça c'est la manière.
Je savais pas.
Alors voilà, si nous sommes fidèles à la parole de Dieu dans notre transmission et nos vies.
Je savais pas que c'était.
Si notre langage est toujours adapté et audible au monde diversifié d'aujourd'hui, si nous suscitons suffisamment le dialogue autour de la parole après les célébrations et rencontres pastorales, dans quelle mesure ce texte a été mis en œuvre 60 ans après sa transmission? Comment donner le désir de connaître la parole de Dieu? Impossible de formuler une question, donc la question c'est est-ce que nous aurons un bon
dîner? Oui.
Normalement, oui, ça c'est qu'ils seront privés
celui-là, on l'a dit. On l'a dit, je sais pas.
Voilà, je vais laisser sans faire plus de temps la parole au Père Luc.
Oui, tout à fait. Je lance ça. Oui, c'est bon. Hop, merci beaucoup.
Oui, merci, merci beaucoup pour cet exercice. Alors, il a un côté un peu artificiel, mais il est quand même très intéressant de voir les questions que ça a suscité parmi nous, ce document de Dei Verbum 25. Alors, je ne vais pas complètement répondre aux questions qui sont là, parce qu'on aura tout à l'heure un autre temps après les témoignages cet après-midi. Et je vous proposerai une petite intervention sur la question qui m'a été demandée, l'autorité de l'écriture et la responsabilité du prédicateur et de la prédicatrice. Donc là, je vais avoir quatre points d'introduction. D'abord, ici, de quoi allons-nous parler ? La question qui m'a été posée, la question qui se pose pour chacune et chacun d'entre nous, c'est la responsabilité. La responsabilité dans l'acte de prêcher. Ça veut dire que ce dont je ne vais pas parler, c'est de la théorie de la prédication, quoiqu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la théorie de la prédication, mais ce n'est pas ce dont je vais parler. Je ne vais pas non plus encore moins donner des recettes pour la prédication. Alors, s'il y avait une définition à retenir de la prédication, on pourrait retenir comme définition, comme approche, ce qui se passe dans Luc chapitre 4. Est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe à Nazareth dans Luc chapitre 4, donc après les tentations ? Puis il y a un verset particulièrement, quelqu'un a une Bible sur lui ? En général, les bons catholiques n'ont pas sur eux. Puis souvent, on dit, oui, j'en ai une, j'ai mon téléphone. Mais attention, parce que sur le téléphone, vous savez que sur Internet, il y a de fausses traductions qui circulent. Donc, il faut faire attention. Donc, Luc chapitre 4, si vous avez une Bible, vous le regardez. Et pour avoir, au fond, c'est quoi la prédication par rapport à l'annonce, par rapport au témoignage. Ben, au fond, la prédication, on a une définition évangélique. Quand, donc, à la synagogue de Nazareth, Luc chapitre 4... Il vient à Nazareth, on lui donne le livre, il le déroule. L'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis au verset 18, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, m'envoyer proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roule le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Au fond, la prédication, elle est là. Quand, d'une parole, on dit et on montre, on déploie que c'est pour aujourd'hui. Du coup, la responsabilité est considérable. Dire c'est aujourd'hui de la parole de Dieu pour une personne ou un groupe précis. Et donc, parler de la responsabilité, c'est parler du fait d'être capable de rendre compte de cette action où nous disons aujourd'hui cette parole, elle s'accomplit pour toi ou pour nous. Rendre compte de cette action devant une autorité. Voilà ce que veut dire à mes yeux le titre responsabilité, autorité de l'écriture et responsabilité du prédicateur et de la prédicatrice, c'est-à-dire rendre compte de ce geste de dire aujourd'hui cette parole s'accomplit pour toi devant une autorité ou plusieurs comme on va le voir. Deuxième point d'introduction, cette réflexion sur notre responsabilité comme chrétienne et comme chrétien dans le moment où nous prêchons, elle se fait dans un certain contexte, dans deux contextes au fond. Un monde en transformation, et puis des églises en transformation. Évidemment, ici, le choix, je vais commencer par le monde et pas par la question de l'église ou des églises. On pourrait faire l'inverse. J'ai choisi de dire mettre transformation, mais souvent on dit crise. Ben, au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire, un monde, des églises qui sont en train de changer de façon assez radicale. Pourquoi ? Ben, dans le monde, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, hein, mais je mets au moins trois points. L'écologie, voilà, la planète change. L'anthropologie, homme-femme, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Avec le nombre de je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en France, il y a beaucoup de gens d'adolescents même, qui sont dans des processus de transition, ce qui n'est pas sans poser beaucoup de questions à leur famille, à leur entourage. Et puis bien sûr, la géopolitique, l'ordre international, hérité de la Seconde Guerre mondiale, est en train d'exploser sous nos yeux. Puis des églises en transformation, ben, c'est des églises qui, avec un processus synodal en cours, donc il va continuer encore pendant cette année, puis la session d'octobre prochain, de profondes interrogations sur les ministères, je dis bien tous les ministères, pas que le ministère presbytéral, mais tout autant sur le ministère épiscopal, diaconal, et puis sur les ministères confiés aux laïcs, hommes et femmes. Et puis bien sûr un seuil œcuménique à franchir. L'une des choses les plus spectaculaires que nous avons vues, à mon avis, à Rome, il y a quelques jours, au début de la session synodale qui vient d'avoir lieu, c'est ce moment de prière œcuménique à Saint-Pierre de Rome, où on a vraiment vu, là, clairement, une église catholique qui manifeste qu'elle a besoin de la prière des autres églises. Pas seulement au-dessus, mais aussi au milieu. Donc c'est absolument considérable. Donc là, il y a un respect œcuménique à franchir, en vue de quoi ? Eh bien, évidemment, du jubilé 2025. Parce que ce qui s'annonce pour nous depuis immédiat, dans quelques mois disons, c'est ce fameux jubilé de 2025 qui est très important parce que c'est aussi le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique, Nicée 325. Donc c'est un moment œcuménique aussi très important et le thème qui a été choisi est tout à fait révélateur, pèlerin de l'espérance. De sorte que réfléchir à notre responsabilité comme prédicateur et comme prédicatrice, c'est réfléchir dans ce contexte troublé comme témoin d'une espérance pour aujourd'hui. Troisièmement, au fond, l'autorité, eh bien, il faut, à mon avis, dans le christianisme et surtout dans le catholicisme, je dirais, toujours le mettre au singulier et au pluriel. Donc c'est bien l'autorité de l'écriture, mais c'est une autorité de l'écriture à l'intérieur d'un ensemble d'autorités. C'est ça que je vais déployer dans une seconde. Parce que ce n'est pas l'écriture seule, comme on le dit, ou comme on pense comprendre quand nos frères et sœurs de la Réforme disent « scriptura sola ». Ils ne disent pas d'ailleurs « scriptura nuda », ils ne disent pas l'écriture nue. Donc il y a toujours une manière de bien comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils disent « écriture seule ». En tout cas pour nous, c'est certain que c'est dans un ensemble qui s'articule, avec d'abord au fond une prédication qui prend sens à l'intérieur de la foi de l'Église, qui s'inscrit dans la liturgie, qui se comprend d'un texte biblique toujours, mais situé à l'intérieur d'un canon biblique qui fait autorité, et puis bien sûr, mise en œuvre par des ministres dans l'Église. De sorte que là, vous avez au moins quatre types d'autorités qui sont en fonctionnement systémique. La foi de l'Église, la liturgie, qui est une autorité évidemment, je vais le déployer, le canon biblique, et puis les ministères. Dernière chose dans mon intervention, évidemment, vous allez voir, je vais faire jouer deux choses, Dei Verbum, bon, Vatican II, très bien, mais aussi l'exhortation apostolique post-synodale de Benoît XVI, Verbum Domini. Un texte absolument majeur de Benoît XVI, dont on peut penser qu'il n'a pas été complètement reçu encore dans le catholicisme, en particulier quand il parle, dans un des numéros, de la sacramentalité de la parole. C'est là où il a développé un point très intéressant de l'ensemble de cette exhortation qui, à mon avis, est absolument déterminante. Alors donc, quatre choses que j'ai envie de vous dire ce matin sur la prédication, dans ce contexte que je viens de rappeler, et pour manifester notre propre responsabilité. D'abord, prêcher, c'est un acte baptismal. Alors, ça veut dire quoi, acte baptismal ? Ça ne veut pas simplement dire que c'est l'acte ouvert à tous les baptisés, hommes et femmes, mais ça veut dire que c'est notre existence de baptisé qui, au fond, nous autorise, mais aussi nous conditionne pour annoncer, prêcher. Bien. Pas seulement annoncer Jésus ressuscité, mais prêcher sur la parole pour dire à quelqu'un ou à un groupe, aujourd'hui, cette parole, elle s'accomplit pour toi. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que, évidemment, cette structuration par rapport au baptême, elle se manifeste dans la liturgie du baptême. Qu'est-ce qui se passe dans la liturgie du baptême ? Prenons le cas d'un adulte. Il confesse la foi, seul, ou à plusieurs, enfin, s'ils sont plusieurs. Et ensuite, le ministre, l'évêque ou le prêtre dit « C'est dans la foi de l'Église que je vais te baptiser. » Vous voyez, il y a toujours une sorte de tension dans la liturgie du baptême entre la foi que nous proclamons et puis en fait le baptême qui a lieu dans la foi de l'Église. Autrement dit, prêcher, c'est un acte baptismal parce que nous nous plaçons à l'intérieur de la foi de l'Église. Nous ne prêchons pas nos convictions, nous ne prêchons pas notre subjectivité. D'où l'équilibre toujours délicat entre l'expérience subjective et l'objectivité de la foi de toute l'Église. Nous ne sommes pas, quand nous prêchons, que des perroquets. Je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, j'étais avec des amis qui étaient très très loin du christianisme et qui pensaient que chaque vendredi, on recevait une prédication à dire de Rome et que chacun allait dire « Oui, vous riez, mais c'était comme ça. » Alors voilà, on avait le texte, quoi, le vendredi, pour le répéter un peu, pour que le dimanche, on puisse le dire presque sans tromper. Et donc, bien sûr que non. Mais quand même, nous prêchons le Christ ressuscité, tel qu'il nous a été transmis par la tradition ecclésiale. Et donc, nous ne prêchons pas notre propre expérience, notre propre conviction. Et donc là, il y a un équilibre délicat. Donc du coup, mesurer que la prédication est un acte baptismal, en fait, nous oblige à rendre compte de la manière dont nous vivons le baptême, chacune et chacun d'entre nous, c'est individuellement, subjectivement, mais bien sûr à l'intérieur de la foi de l'Église. C'est très bien dit, on l'a dit dans Verbum Domini, donc VD, ça veut dire Verbum Domini, donc l'exhortation apostolique de Benoît XVI. Les laïcs sont appelés à exercer leur mission prophétique qui déroule directement de leur baptême et à témoigner de l'Évangile dans la vie quotidienne partout où ils se trouvent. Ça répond à une question qui était posée tout à l'heure. Est-ce qu'on prêche l'Évangile tout le temps ? Eh bien oui, c'est ce que disait saint François. Hein. Il faut tout le temps prêcher l'Évangile, parfois en parlant. Vous entendu, on le prêche pas aussi pour notre propre comportement, évidemment. À ce propos, voilà, les pères synodaux ont exprimé, donc c'est une exhortation apostolique, hein, donc le pape reprend des éléments du synode qui a eu lieu en 2008. À ce propos, les pères synodaux ont exprimé la plus vive estime, la reconnaissance et les encouragements pour le service de l'évangélisation que tant de laïcs, en particulier les femmes, offrent avec générosité et esprit d'engagement dans les communautés dispersées à travers le monde, à l'exemple de Marie-Madeleine, premier témoin de la joie passerelle. Tout le monde comprend bien que Marie-Madeleine ici est un modèle, pas que pour les femmes. C'est un modèle pour les femmes et pour les hommes, bien sûr. Mais enfin, les pères synodaux ont salué cette évangélisation faite par beaucoup de laïcs, en particulier les femmes. Donc premier élément, oui, prêcher un acte baptismal. Deuxième élément, un acte liturgique. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en effet, la prédication, elle naît dans la liturgie. Plus exactement, il faudrait même peut-être dire l'inverse, la liturgie est la matrice de toute existence chrétienne. Alors ça se voit de façon très simple. Comment est-ce que nous entrons dans la vie chrétienne ? Par le baptême. Et comment est-ce que nous en sortons ? Par les obsèques. Qu'est-ce que c'est que les obsèques ? C'est une célébration baptismale. Sur le corps, sur notre corps, ce jour-là, ben, nous on sera plus là, enfin, les gens qui sont autour de nous, feront sur notre corps ce qui a été fait au jour de notre baptême. Donc en fait, notre vie chrétienne, elle est entourée du début jusqu'à la fin par la liturgie. Dans cela, la liturgie est profondément matricielle. Or, qu'est-ce que c'est que la liturgie ? La liturgie, c'est toujours trois choses. C'est un protocole, c'est une partition et c'est une grammaire. Un protocole, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une manière de mettre en scène le pouvoir. Le protocole, c'est ça. Alors, dans la France républicaine, par exemple, vous avez un protocole extrêmement précis. Pour savoir qui passe avant qui, c'est sidérant quand on regarde ça. Donc le protocole, c'est une mise en scène du pouvoir. C'est très important parce que la liturgie, elle organise les choses, elle organise la manière de faire. Par exemple, elle ne fait pas de distinction dans l'assemblée chrétienne entre les hommes et les femmes. Ça va même plus loin, sauf dans des cas très très précis, on ne fait pas acception des personnes dans la liturgie. C'est-à-dire que si c'est une princesse qui vient ou un président, il est considéré comme un autre. Il a le même type de chaise. Enfin, donc la liturgie, elle est par ce moment-là, elle est un protocole. Elle est aussi une partition, c'est-à-dire que c'est le même rituel pour tout le monde, mais il est mis en œuvre de façon extrêmement différente selon qu'on est au JMJ à Lisbonne ou dans une communauté religieuse avec une petite communauté. Enfin, c'est le même mystère, mais seulement c'est pas du tout la même mise en œuvre. Donc la partition dit ça, c'est-à-dire qu'elle est à interpréter toujours par les participants. Et les participants, c'est tout le peuple chrétien, et pas seulement les ministres ou l'équipe liturgique. Elle est aussi une grammaire, c'est-à-dire qu'elle crée des relations, elle inscrit dans le temps, elle désigne un mode d'être même, puisqu'elle est à l'indicatif, parfois à l'impératif. Et donc en cela, elle est vraiment une constitution même de la vie chrétienne. Donc comme protocole, partition et grammaire. Il y a même un troisième élément qui montre que la prédication est un acte liturgique, c'est qu'en fait, il y a une circulation permanente entre la Bible et la liturgie. Où nous avons le meilleur contact avec la Bible ? C'est dans la vie liturgique, mais la Bible elle-même est fabriquée à partir de la liturgie. C'est-à-dire, ce qui la constitue comme Bible, c'est en réalité, pour une bonne part, l'expérience liturgique du peuple d'Israël, évidemment, puis des chrétiens, pour le Nouveau Testament. C'est ce que dit Benoît XVI quand il dit, donc 52, l'Église a toujours été consciente que, durant l'action liturgique, la parole de Dieu est accompagnée par l'action intime de l'Esprit Saint qui la rend efficace dans les cœurs des fidèles. Et même il cite Vatican II, Sacrosanctum Concilium, le Christ est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Au fond, c'est dans la liturgie que la Bible devient parole de Dieu. Ça permet de distinguer entre texte biblique et, disons, parole de Dieu. C'est dans la liturgie qu'elle devient parole de Dieu. Troisième chose, du coup, eh bien, prêcher, c'est un acte biblique. Voilà, c'est ça que je voudrais insister sur cette circulation en la déployant un peu plus. Pourquoi ? Eh bien parce que le Nouveau Testament naît comme une prédication. Alors, je laisse de côté volontairement l'Ancien Testament, il y aurait beaucoup à dire sur la question de la prédication, mais c'est plutôt ici le Nouveau Testament qui m'intéresse, en montrant comment il naît à l'intérieur d'un acte de prédication. Alors ça se voit de mille manières, par le passage que je viens de citer. Pourquoi est-ce que Saint-Luc reprend cet épisode de Nazareth ? Et pourquoi est-ce qu'il le met en scène de cette manière-là ? Sinon pour montrer que la vie même, l'existence même de Jésus est une interprétation de ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce qui est appelé dans le Nouveau Testament les Écritures. Parce que dans le Nouveau Testament, quand on dit Écriture, ça veut dire l'Ancien Testament. Et donc le Nouveau Testament naît comme une vaste prédication, organisée d'ailleurs. Vous avez remarqué dans Dei Verbum, le passage que vous avez lu, il y a une hiérarchie dans le Nouveau Testament qui est mise. Qu'est-ce qu'on met en premier ? Les évangiles. D'ailleurs, vous voyez, c'est même assez fort quand on mesure. Quand vous prenez le corpus de Saint-Luc, le corpus lucanien, vous voyez que Luc, il a voulu écrire deux livres. Son évangile, le troisième, et puis les actes des apôtres. Et donc, une des questions que j'ai à poser à mon saint patron quand je le verrai, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça te fait, ô grand Saint-Luc, que ton œuvre ait été brisée pour qu'on mette au milieu Jean? Parce que quand vous lisez les évangiles, vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, quelle que soit la confession, vous avez maintenant le même ordre, l'ordre a varié dans les évangiles, dans l'histoire. Attends, vous avez le même ordre, et vous avez, entre Luc et les actes, Jean. Qu'est-ce que ça lui fait ? Parce que pour Luc, les deux sont profondément liés. Donc là, il y a eu une mise en œuvre. Vous voyez, c'est là où vous avez un vraiment protocole, vous avez une mise en œuvre. Parce que, en effet, l'évangile est apparu comme le plus important, puis ensuite les actes des apôtres, puis les lettres de Paul rangées par ordre décroissante, hein, c'est simplement une question de rangement d'ailleurs, et ensuite le reste, et bien sûr l'Apocalypse en dernier. C'est tout à fait volontaire, évidemment. Tout ceci a été, au fond, mis en œuvre, pensé, organisé, autour de quoi ? De l'acte même de prédication. D'où la prise en compte du canon biblique. En fait, l'une des principales autorités, c'est le canon biblique. Qu'est-ce que c'est que ce canon biblique ? Ben c'est, au fond, quand vous prenez une Bible, la reliure. Puisque dans le Nouveau Testament, on a mis ensemble 27 livres, les mêmes 27 livres pour toutes les églises chrétiennes, et on les a fait tenir ensemble. Or, ce sont des livres qui sont très différents les uns des autres, voire même parfois opposés. Vous voyez très bien, si vous regardez la manière dont Jésus meurt de quatre manières différentes. Ce qui est bien sûr beaucoup pour un seul homme. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu, qu'est-ce qu'il meurt en disant quoi ? Oh, si vous connaissez. Matthieu, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors que dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ça c'est juste avant, en effet, j'ai soif, c'est vrai. Et puis, tout est accompli. Vous voyez bien qu'entre le Jésus de Matthieu et le Jésus de Jean, c'est pas du tout la même manière de mourir. Tout est accompli d'un côté, et de l'autre côté, c'est pourquoi m'as-tu abandonné. Donc ici, la prise en compte du canon biblique, vous voyez, vient évidemment beaucoup, disons, organiser notre prédication. Parce que nous savons que si nous prêchons sur tout est accompli, nous ne pouvons pas oublier que dans l'évangile de Matthieu, Jésus meurt en criant pourquoi m'as-tu abandonné. Et que même Jean, la description de Jean, c'est inclinant la tête, il remit l'esprit. Ça, c'est la Pentecôte, évidemment. Alors que dans Matthieu, c'est déchirant, c'est violent. Voilà, donc ici, bien sûr, ça veut dire que cette prise en compte du canon biblique, elle est une autorité majeure, en fond, dans la fabrication de notre prédication. Et bien sûr, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une formation permanente à l'écoute et à l'interprétation. Alors, ici, par formation permanente, prise en compte de l'acte biblique de prédication implique une permanente formation, y compris pour ceux qui ont fait de longues études, qui, au fond, invite toujours à l'écoute, et donc à l'écoute de l'autre. Ce que nous avons fait tout à l'heure de façon expérientielle autour de ce psaume. C'est-à-dire que le psaume nous a suscité notre partage, et donc nous nous sommes mis à l'écoute des uns des autres. Et donc écouter la parole, c'est toujours aussi écouter l'écho que cette parole suscite chez nos frères et sœurs. Et puis bien sûr l'interprétation, parce que l'acte d'interpréter doit rester en chantier au fond. Souvent la question m'a été posée, mais alors tu gardes tes prédications, tous les 3 ans ça revient, hein. Tu gardes tes prédications puis tu les ressors comme un fichier qu'on ressortirait, tac. Et en fait, si, je ne sais pas si mes confrères prêtres et diacres ont déjà fait l'expérience, moi je constate que quand je retrouve une prédication ancienne, je ne dis pas toute la même chose.
dit autre chose. Voilà. Parce qu'en fait, bah, j'ai changé, j'ai lu d'autres trucs, le public n'est pas le même, enfin voilà. Et donc ici, il y a au fond une exigence de permanente formation. C'est ce que dit à sa manière Verbum Domini, donc toujours Benoît XVI, le lieu originaire de l'interprétation scripturaire, c'est la vie de l'Église. C'est très intéressant cette formule. D'autres, ça s'est dit autrement. Comment est-ce qu'on interprète? Où c'est qu'on voit l'interprétation de la Bible ou la mise en œuvre de la Bible dans la vie des saints? Voilà. C'est une autre façon de le dire. Cette affirmation n'indique pas la référence ecclésiale comme un critère extrinsèque auquel les exégètes doivent se plier, mais elle est demandée par la réalité même des Écritures et par la manière dont elles se sont formées dans le temps. Voilà, ici, là, vous avez une allusion au canon biblique, qui n'est pas seulement une structure, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui est aussi un processus. C'est au fond, pour le Nouveau Testament, à peu près au 4e siècle, que apparaît une liste telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a des textes qui ont été en discussion. Certains auraient pu être, la Didaquée, etc., d'autres encore. D'autres, on les a exclus. Et donc, au fond, le processus canonique, voyez, le processus de canonisation des Écritures, dit beaucoup de ce qu'est l'Église. Enfin, quatrième élément, prêcher, c'est un acte ministériel. C'est un ministère que nous mettons en œuvre. Alors, ministère, ça veut dire pour moi, ça veut dire c'est une responsabilité publique, assumée par une personne, j'aurais dû mettre ça, assumée par une personne précise, homme ou femme, dans une église synodale. Donc, je pourrais rajouter, assumée par une personne précise. C'est pas un ministère vague d'un groupe, c'est une personne précise. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette manière, cette responsabilité qui nous est confiée, elle nous est confiée par quelqu'un. Et donc, elle est une mission qui est reçue sous la vigilance de l'évêque, de ses collaborateurs, évidemment. C'est ça que ça veut dire. Et donc, à l'intérieur d'une église qui est structurée par le ministère apostolique. Troisième élément, et ben, ça veut dire que nous pourrions, davantage sans doute que nous le faisons aujourd'hui, avoir une relecture synodale de la prédication. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de pouvoir, après avoir assuré un groupe biblique, une intervention, une prédication au sens strict dans une liturgie, ou l'animation d'un groupe de jeunes, ou un temps de prière, avoir eu une occasion de relire synodalement ce qu'on a tenté. C'est très difficile. Souvent, à la fin des, moi, quand je prêche, à la fin de la messe, les gens me disent « Oh là là, ce que vous avez dit, c'était remarquable, j'ai beaucoup aimé. » Et puis, ils me disent quelque chose que je n'ai pas dit. Bon, voilà. Ils me disent rien. Alors, je me dis « Bon, ça veut dire que c'était nul. Bon, » voilà. Et donc, c'est très difficile, et même entre confrères. Entre confrères, il n'y a rien de plus difficile que de parler des prédications. Si, peut-être, la manière de présider l'Eucharistie. Ça aussi, c'est pas facile d'en parler entre prêtres. C'est très difficile. Or, ça serait très intéressant qu'on ait cette possibilité de relecture synodale de nos prédications. Parce qu'on pourrait apprendre beaucoup de la manière dont nos prédications sont reçues. Moi, je l'ai vécu une fois dans un lieu dont j'ai été le responsable. On l'a fait une fois dans un groupe pendant le carême et c'était remarquable. Du coup, Verbum Domini, sur cette dimension ministérielle, a une formule qui est vraiment très intéressante sur la place de l'Écriture. Donc Benoît XVI toujours, il ne s'agit donc pas d'ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de vérifier que dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, les associations, les mouvements, on ait vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa parole. Au fond, l'acte ministériel, la responsabilité que nous recevons en recevant la responsabilité de prêcher, ça consiste à permettre à toutes les personnes dont nous avons la charge, y compris celles qui ne sont pas chrétienne, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Ceux dont nous avons la charge, au sens le plus large du terme, permettent une rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa parole. Voilà, au fond, la responsabilité qui est la nôtre. Je conclue en disant, j'ai voulu vous dire quatre choses, un acte baptismal, liturgique, biblique et ministériel, ce qui me permet de tirer au moins trois conclusions. D'abord, la prédication, c'est une opération complexe. Non pas compliqué, hein. C'est pas très compliqué, je veux dire en soi. Il y a des choses beaucoup plus compliquées à faire, comme remplir sa feuille d'impôt, ou je sais pas. Non, c'est pas compliqué. Mais c'est complexe, parce qu'il faut tenir plusieurs éléments ensemble. C'est ça qui est la complexité. La complexité, c'est pas la complication. La complexité, c'est que ce n'est pas réductible à quelque chose de simple. La complexité, c'est qu'il faut tenir plusieurs éléments que je viens de dire, c'est-à-dire expérience personnelle versus foi de l'Église, à l'intérieur du cadre liturgique,
compris dans le canon biblique et compris comme une responsabilité que nous recevons de l'évêque. Voilà, oui. Et donc c'est une opération qui, de ce point de vue-là, est relativement complexe, il faut bien le dire. Deuxièmement, évidemment, recevoir la Bible comme écriture, ça revient en réalité à entrer dans le mystère de l'Église. Il y a un très bon texte de la Commission biblique pontificale de 93 qui s'appelle l'Inter 93. Eh bien, vous avez un très bon texte de la Commission biblique pontificale qui s'appelle l'Interprétation de la Bible dans l'Église, un texte majeur à mon avis qui n'a pas vieilli, c'est à 30 ans, où on dit ça. L'Église et l'Écriture sont en miroir l'une de l'autre. C'est-à-dire en entrant dans les Écritures, on pénètre le mystère de l'Église, et inversement, on ne pénètre le mystère de l'Église qu'en entrant dans le monde des Écritures. Et puis dernière chose, eh bien, à mon avis, il y a un seuil synodal à franchir aujourd'hui, ça c'est à mes yeux très clair, pour prévoir un processus de formation et de relecture. Au fond, être responsable dans la prédication, ça consiste à l'être à l'intérieur de l'Église, et donc dans une démarche synodale. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour vous sur ce point. Ce que je propose maintenant, je reviens dans le plan que vous avez. Ce que je propose maintenant, dans le temps qui nous reste, s'il nous reste quelques instants avant midi, c'est peut-être un petit 2 minutes en silence, et moi j'en suis où sur ce que je viens de vous dire. Et vous notez quelque chose, et ensuite un petit temps de partage. Ça va ? 2 minutes de silence. Dans les 10 minutes qui nous restent, ce que je propose maintenant, c'est 2 choses. Donc 6 minutes de débat en table, à partir de l'ensemble de la matinée, hein, c'est-à-dire depuis le psaume 24, jusqu'à la lecture du Dei Verbum, et puis jusqu'à ce que je viens de vous dire, l'ensemble, qui permet, donc en discutant sur place, et qui permettent à la fin, donc à 6 minutes, je dirais stop, il faut écrire une question, des convictions, ce que vous voulez, sur un papier. Là, pour le coup, c'est un papier, ça nous servira pour l'après-midi. Ça va ?